Donc voilà un livre. Ce n'est pas un livre pour adultes, mais il y a beaucoup d'adultes qui le lisent. Bon, c'est l'aventure de Harry Potter. Bon. Alors, ça a l'air bien sympathique comme ça en apparence. C'est le quatrième tome d'une série de sept volumes. Bon, qui est écrit par un auteur anglophone. Je ne sais pas si c'est une écossaise ou une anglaise. Bon. Alors, c'est le quatrième tome. Harry Potter, je vous donne les titres. Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter et la chambre des secrets. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu. Donc, les trois premiers volumes ont été vendus à 230 millions d'exemplaires dans le monde. Alors bon, je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est du genre dans 45 pays traduits en 30 langues. Donc c'est énorme, quoi. C'est une coqueluche. Ce tome-là, il a été lancé donc la veille de Halloween, le 29 novembre à minuit, dans deux librairies à Dijon. Et il y en a une, par exemple, ça s'est vendu à minuit, ils ont vendu en un rien de temps, donc aux jeunes, à des enfants qui étaient venus de 10, 11, 12, 13, 14 ans, en pleine nuit, donc entre minuit et 2 heures du matin, ils ont vendu l'une 75 exemplaires, l'autre 150 exemplaires. Alors avec des cadeaux Halloween de Gallimard, balade en calèche dans Dijon en prime, etc. Donc c'est un livre qui vaut 120 francs. Alors tout le monde était déguisé en sorcier. Alors où il y avait un agent publicitaire, ou je sais pas, j'ai pas bien compris, c'était l'auteur lui-même qui était là. Enfin, il semble pas que ce soit l'auteur, mais donc tout le monde était déguisé en sorcier, etc. Et puis bon, donc c'est la coqueluche. Alors on avait parlé de ça à Dijon, puis il y a une jeune fille qui sort de Pouilly qui m'a dit: Monsieur Abbé, je vais acheter les quatre tomes, puis on va lire, on va chercher la faille. Bon, ne cherchez pas la faille, c'est pas la peine. Je vais vous lire la faille. Il n'y a pas de faille, c'est au grand jour, quoi. Après un horrible été chez les Dursley, Harry Potter entre en quatrième année au collège de Poudlard. À 14 ans, il voudrait simplement être un jeune sorcier comme les autres, retrouver ses amis Ron et Hermione, assister avec eux à la Coupe du Monde de Quidditch, apprendre de nouveaux sortilèges et essayer des potions inconnues. Une grande nouvelle l'attend à son arrivée, la tenue à Poudlard d'un tournoi de magie entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà, les spectaculaires délégations étrangères font leur entrée. Harry se réjouit trop vite. Il va se trouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. Envoûtant, drôle, bouleversant, ce quatrième tome est le pilier central des aventures de Harry Potter. Alors, commentaire du monde, Harry Potter vous ensorcelle dès les premiers paragraphes et vous procure un sentiment continu de jubilation, un bonheur. Bon, alors, 7 livres au total sont prévus. L'auteur fera grandir, évoluer et mûrir Harry. Chacun représente une année de plus à l'école des sorciers. Donc, bon, c'est évidemment ouvertement mauvais. Puisque la sorcellerie, les sortilèges, c'est donc c'est un péché, les péchés les plus graves contre le premier commandement, où il y a invocation implicite ou explicite du démon. Donc, évidemment, c'est très mauvais. Très mauvais, et il ne faut surtout pas que les jeunes lisent ça. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, un petit peu par analogie, c'est un petit pronostic, l'avenir nous dira si c'est juste ou pas. Bon, quand Jean-Paul Sartre a commencé à diffuser ses bouquins, le taux de suicide a bien augmenté en France. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On apprend en commerce, et c'est vrai, je pense, partout, on apprend la loi des 20-80, et la loi des ABCD. Alors, ABCD, c'est un peu déjà compliqué, mais 20-80, c'est très simple. C'est que les phénomènes se répartissent toujours suivant la proportion 20%-80%. Donc, c'est-à-dire, par exemple, application dans le commerce, quand on a un chiffre d'affaires de 100%, eh bien, il y a 20% du chiffre d'affaires qui fait 80% des clients, et il y a 80% du chiffre d'affaires qui est fait avec 20% des clients. C'est une répartition, c'est une loi constatée, empirique. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Par exemple, le monde, il est gouverné par 20% des gens, et 80% des gens sont dans la masse, suivent. Alors ces 20% se divisent en 10% dans le bon camp et 10% dans le mauvais camp, en général. Voilà comment ça se passe. Alors qu'est-ce que ça va donner? Appliquons à Harry Potter. Je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, sachant qu'il y a des jeunes chez qui ça ne laissera pas de traces, heureusement, mais il y aura certainement 80% de gens qui auront lu ça, qui deviendront superstitieux, qui marcheront à coups de porte-bonheur, de porte-malheur, de consultation, de voyante et de mage. Ça, c'est à mon avis, c'est comme ça que ça va se terminer. Alors, il y aura les fameux 20%. Ben, à mon avis, il y aura 10% qui vont devenir satanistes, carrément, et il y aura 10% qui vont terminer dans le suicide. Parce que c'est diabolique. Et que le démon, de toute façon, veut emmener autant qu'il peut les gens vers ça. J'aimerais tirer votre attention sur, par rapport aux promesses du baptême, je renonce à Satan, à ses pompes, à ses œuvres. Là, on est carrément dans les œuvres de Satan. C'est certain qu'on ne peut pas lire ce genre de choses. Jamais, jamais. Même si c'est du roman. Et alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai trouvé ça dans une famille de traditionalistes. Malheureusement, mes parents ne s'étaient pas rendus compte, heureusement. Et alors, dans cette famille, eh bien, il y avait un enfant qui avait déjà lu toute une collection qui s'appelle Chair de poule. Alors, Chair de poule, c'est des espèces de livres de poche, de livres fantastiques à faire peur. Alors, j'en avais lu un, et il n'y a ouvertement rien contre les commandements de Dieu. C'est du truc fantastique qui fait peur. C'est pas bon, à mon avis, il ne faut pas lire ça. Mais il n'y a rien de positivement contre les commandements. Et je m'étais dit, je vais aller dans cette famille et une chance sur deux pour que je trouve ça. Pourquoi? Parce que Chair de poule, c'est le premier pas. C'est pas les hommes de Satan, c'est ses pompes. C'est déjà ce qui donne l'occasion de pécher. Je vois pas directement quoi, mais enfin, c'est certainement, et ça m'a prouvé parce que je suis allé dans cette famille, première chose que j'ai eue dans le salon, comme quoi cette collection Chair de poule, qui est apparemment inoffensive, je dis bien apparemment, parce qu'il n'y a rien d'ouvert contre les commandements, c'est un premier pas vers ça. Quand les jeunes ont lu Chair de poule, toute la collection, ils sont prêts pour lire ça. Donc il faut absolument proscrire des détentes et des loisirs de nos enfants, ce genre de choses. Le fantastique ne correspond pas au réel. Et c'est déjà l'imaginaire et l'imaginaire, la porte à autre chose. Quoi, pour Donc il faut bien voir que le travail de préparation des enfants se fait petit à petit. Le démon, il ne vient pas plein pied tout de suite dans le truc franchement mauvais. Quoi. Et même après, dans le truc franchement mauvais, il présente ça de façon assez sympathique. Quoi. C'est vrai que c'est du point de vue marketing, c'est bien présenté, tête de gondole à carton dans les hypermarchés. C'est gros bouquin, c'est doré, c'est bien présenté, c'est attrayant, quoi. Et le père qui avait déjà acheté toutes les collections Chair de poule à ses enfants, m'a dit, bah, tiens, ça devrait intéresser mon suivant, quoi. C'est tout spontané, il n'avait même pas lu derrière. Quand je lui ai fait lire derrière, il dit, ah bon, il est comme ça, quoi. Donc, oui. Pardon? Non, je ne connais pas tout. Hein. Moi, je m'intéresse à ça parce que j'étais confronté à ça. Enfin, il faut quand même tenir. Non, mais c'est tout le problème, le démon. Le démon n'est pas fou. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire que ça. C'est que c'est, à mon avis, mauvais, dans ce sens où ça se termine mal si on suit la filière, quoi. Non, mais c'est tout le problème, si vous voulez. Le démon n'est pas fou, quoi. Il ne vous propose pas de but en blanc, le truc énorme, à moins d'être déjà en plein dans le péché. Donc il procède par étapes. Et il commence toujours par un terrain glissant, qui n'est pas encore le péché, mais un terrain glissant. Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, s'imaginent qu'il y a le gros truc énorme, et puis après tout est permis. Non, il y a les pompes de Satan. C'est quoi? C'est la préparation au péché. C'est donc ce qu'on appelle les occasions de péché. Alors c'est pas franchement mauvais. Le démon, c'est son terrain propre. L'eau trouble, c'est le terrain propre du démon. Et il faut quand même bien dire que quand on dit les mythologies, c'est pas innocent. Les mythologies, ce sont des inventions diabolique du démon pour détourner les gens de la vraie religion. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Donc, mais je suis d'accord avec vous. Non, non. La vraie religion est fondée dès le départ avec Adam et Ève. Et ces mythologies, ce sont des séquelles du dépôt primitif de la révélation qui ont été déformées et détournées de leur origine. Donc il ne faut, faut pas se tromper, si vous voulez. Il ne faut pas se tromper. Par exemple, vous avez dans toutes les religions des traces du récit du déluge. Mais ils sont tous déformés. Parce qu'il n'y a que dans la vraie religion que le récit était conservé intact. Et après, si vous voulez, le dépôt révélé s'en va dans les autres religions, il est déformé, il est trafiqué, il est augmenté, et puis il est perverti. Et c'est pour ça qu'on a une certaine ressemblance entre certaines religions. Mais il ne faut pas se tromper, si vous voulez, sur l'origine de la vraie religion et sur l'origine des fausses religions. Enfin bon, c'est un peu d'actualité, en tout cas, je pense, j'ai un confrère qui m'a dit, oh ben moi, si les fidèles m'en parlent pas, j'en parle pas, je suis désolé, moi j'en parle, parce que j'ai trouvé chez ses propres fidèles ce truc-là, quoi. Donc, je pense qu'il faut en parler, c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait des surprises qui surgissent. Bon, voilà, allez. Donc, arrivons à notre sujet, les rois mages. Alors, vous avez entendu aujourd'hui l'évangile, donc... Mais suivre Monseigneur Gaume, c'est un très bon auteur, il a écrit des choses sur la confession, sur l'éducation, sur la révolution. Et là, bien, il a écrit un livre biographie évangélique, donc c'est assez intéressant, c'est très bien fait. Donc tout est intéressant, c'est un petit peu long pour tout aborder, je relis rapidement le récit. Ayant entendu le roi Hérode, les mages s'en allèrent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus du lieu où était l'enfant. Or, en voyant l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et de leur trésor ouvert, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ayant été avertis en songe de ne pas revenir vers Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Voilà l'histoire des mages. Alors je vous propose d'examiner trois points qui me semblent intéressants et bien traités par l'auteur. Alors d'où venaient les mages? Parce que dans les textes liturgiques, on parle d'Arabie, de Saba, etc. Et on a l'impression que c'est un petit peu... un arrangement qu'on fait, quoi. On prend des textes qui grosso modo collent un peu avec les mages, puis ça crée un climat, si vous voulez, on a l'impression que c'est un petit peu un arrangement liturgique, quoi. Donc on verra ce qu'il en est exactement. Ensuite, quelle était cette étoile? Parce que c'était une étoile du système sol, du système, système que le bon Dieu a créé dès le début, ou est-ce que c'est une étoile miraculeuse? Et puis aussi la signification des présents. Et puis on verra aussi, à la fin, donc la manière dont les peuples honoraient les rois mages, donc les rois, ce que faisaient les rois, ce qu'on faisait à Reims dans la cathédrale, et puis on verra le cantique de Noël de Saint-Louis de Montfort sur les rois mages. Il y a un autre passage aussi de la vraie dévotion où il parle des rois mages. Alors, donc commençons tout de suite, d'où venaient les mages? Alors là, il fait allusion à une prophétie de Balaam. Donc Balaam, c'est un prophète païen, mais un mage, un magicien, enfin bon, pas quelqu'un qui vénérait le vrai Dieu, mais dont Dieu s'est servi pour faire des prophéties. Vous savez que ce qu'on appelle les charismes, donc le don de lire dans les cœurs, le don de prophétie, les miracles, ce sont des charismes. On n'est pas obligé d'être en état de grâce pour avoir ces charismes, mais ces charismes viennent de Dieu. Ne les a pas qui veut les avoir. Par exemple, on voit Caïphe, il a prophétisé, donc Dieu lui a donné ce charisme de prophétie pour prophétiser qu'il valait mieux qu'un homme meure au profit du peuple, bon, pour sauver le peuple. Donc Caïphe n'est pas en état de grâce, donc ça n'a rien à voir. On peut très bien faire des miracles et pas être en état de grâce. Donc ça n'a rien à voir. Alors, Balaam était un de ces prophètes de l'Ancien Testament qui avait fait une prophétie, donc il fait allusion à ça. Il y avait plus de 1000 ans que Balaam, mage lui-même, appelé par Balak pour maudire Israël. Donc vous voyez, c'était Balak, un ennemi d'Israël qui appelle Balaam pour maudire Israël. Donc, avait prophète malgré lui appelé sur ce peuple toutes les bénédictions divines. Donc Balak appelle Balaam pour maudire Israël, mais Balaam bénit Israël, sous l'inspiration divine. Et il avait annoncé dans la suite des siècles ses glorieuses destinées. De bouche inspirée étaient sorties ces mémorables paroles. Donc, vous voyez la prophétie qui concerne les rois mages. Une étoile se lèvera de Jacob et le sceptre sortira d'Israël. Voilà la prophétie. Une étoile se lèvera de Jacob et le sceptre sortira d'Israël. Donc, c'est dans les Nombres, livre des Nombres de la Bible, au chapitre 24, verset 47. Et il ajoute que celui qui portera le sceptre annoncé par l'étoile dominera l'Orient et l'Occident. Or, la prédiction de Balaam fut faite en Arabie. Sans doute, Balaam était mésopotamien. Donc la Mésopotamie, Mésopotamia, ça veut dire entre deux fleuves, entre l'Euphrate et le Tigre. Donc, c'est cette partie de pays qui est donc en Orient, entre l'Euphrate et le Tigre. Alors, Balaam était mésopotamien, comme lui-même le dit, mais il avait été appelé par Balak, roi des Moabites. Alors, les Moabites, c'est un des peuples dont le royaume et la capitale étaient appelés Moab, et ce peuple de Moab se trouvait en Arabie. Bon. C'est donc dans ce pays que son étonnante prophétie dut se conserver avec le plus de fidélité. D'autant plus que les mages, prêtres de l'Arabie, étaient les confrères et les successeurs de Balaam. Rien n'est plus certain, dit saint Jérôme. Alors, citation de saint Jérôme, les pères de l'Église, donc on suit la tradition, pas des inventions. Cette exégèse ne relève pas que d'une lecture intrinsèque de la Bible. On écoute la tradition qui vient par les pères de l'Église. Donc saint Jérôme, grand spécialiste de l'Écriture sainte, à la confusion des Juifs qui devaient apprendre des gentils la naissance du Messie, une étoile paraît à l'Orient, dit saint Jérôme. Étoile qu'avait prédite Balaam, dont ils étaient les successeurs. Donc les rois mages sont successeurs de Balaam, et Balaam avait prononcé cette prophétie sur l'étoile de Jacob. Voilà une première indication du pays des mages qui vinrent à Bethléem. Donc les mages viennent d'Arabie. À leur tour, les vrais prophètes, dont l'exactitude brille dans les moindres détails, nous en fournissent une seconde. David, donc le roi David, contemple dans le lointain des âges son petit-fils et son Dieu couché dans son pauvre berceau et s'écrie. Donc ça, c'est une citation du psaume 71, verset 10, donc psaume de David. Les rois des Arabes et de Saba lui apportent les présents. Isaïe est encore plus explicite. L'avenir est devant ses yeux. Il voit le soleil éternel, le Verbe Jésus descendre sur la terre, dont il dissipe les ténèbres. Puis des rois marchant au rayon de sa gloire, alors s'adressant à Jérusalem, il dit, donc prophétie de Isaïe. Tu seras couverte d'une inondation de chameaux et de dromadaires, de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront, apportant or et encens et chantant gloire au Seigneur. Alors qui sont Madian et Épha dont parle Isaïe? C'étaient deux petits royaumes d'Arabie, dont les habitants descendaient d'Abraham par Sétura. Alors Sétura était une des femmes d'Abraham. De cette femme, Abraham eut entre autres deux fils, Jeksam et Madian. Jeksam fut le père de Saba. Donc je rappelle la citation de David, les rois des Arabes et de Saba lui apportent des présents. Bon. Jeksam fut le père de Saba et Madian fut le père d'Épha. Épha auquel fait l'allusion Isaïe. Tu seras couvert d'une inondation de chameaux et de dromadaires, de Madian et d'Épha. Bon. Tous ceux de Saba viendront apportant or et encens et chantant la gloire du Seigneur. Alors, devenus rois par droit de progéniture, Saba et Épha donnèrent leur nom aux deux royaumes indiqués par Isaïe. Les autres détails de la prophétie ne s'appliquent pas avec moins de justesse à l'Arabie, pays renommé dans le monde entier par ses magnifiques dromadaires, vivants navires du désert, par ses mines d'or et par ses aromates les plus recherchés de tous. Bon. Vous voyez, il y a plusieurs sources. On prend la prophétie de Balaam, la prophétie d'Isaïe, la prophétie de David, le témoignage des pères de l'Église. Bon. Sur le pays des mages, la tradition des rabbins est d'accord avec les paroles des prophètes et le témoignage des premiers pères de l'Église. Donc là, il faut quand même tenir compte que avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, la vraie religion était juive et israélite. Bon. Et donc les rabbins tenaient quand même, malgré les déviations de la synagogue, etc., les rabbins tenaient quand même la tradition orale. Bon. Il y avait l'écriture sainte, mais il y avait aussi une tradition orale véritable, même si la synagogue en a abusé, l'a déformée, etc., jusqu'au temps de notre Seigneur. Il y avait quand même, on interroge avant notre Seigneur les traditions rabbiniques. Et même après notre Seigneur, dans une certaine mesure, les traditions rabbiniques concordent avec la tradition des pères de l'Église. Donc on interroge la tradition des rabbins. La tradition des rabbins est d'accord avec les paroles des prophètes et le témoignage des premiers pères de l'Église. Alors ça, les mages arabes, dit Saint Justin, donc Saint Justin c'était un père apologète, un philosophe converti, le seul saint parmi les apologètes. Alors témoignage de Saint Justin qui est mort très très tôt, hein. Dans le dialogue avec Tryphon, les mages arabes, dit Saint Justin, étant venus à Bethléem, adorèrent le petit enfant. Et Tertullien, le Christ enfant reçut en hommage la puissance de Damas et les dépouilles de Samarie. Témoins les mages d'Orient, qui honorent son enfance par des présents en or, en encens et en myrrhe. Dans son livre contre les Juifs. De cet or, David avait parlé, donc autre prophétie de David. Et il lui sera donné de l'or de l'Arabie. Et ailleurs, il dit encore, les rois des Arabes et de Saba lui apportent des présents. En effet, presque tout l'Orient eut des mages pour rois. Et Damas faisait partie de l'Arabie avant d'être réuni à la Syrophénicie. On aurait été une objection. On aurait pu dire, non, Damas et la Syrophénicie. Ben non, avant de faire partie de la Syrophénicie, Damas faisait partie de l'Arabie. L'Arabie s'étendait jusque-là. Les mages eux-mêmes achevèrent de nous fixer sur leur pays. Ils disent à Hérode, nous avons vu son étoile en Orient. Or, l'Arabie est précisément à l'Orient de la Judée. À l'Orient, dit Tacite, le territoire et les frontières de la Judée sont bornés par l'Arabie. Donc, notre géographie moderne ne correspond pas en tout point à la géographie des anciens. Donc le témoignage de Tacite. À l'Orient, dit Tacite, le territoire et les frontières de la Judée sont bornés par l'Arabie. Donc, quand les mages disent « Nous avons vu son étoile en Orient », ça veut dire, à l'époque, « Nous avons vu son étoile en Arabie ». Bon. Donc voilà, donc il venait d'Arabie. C'est fondé sur la tradition, l'écriture sainte, et puis la tradition et même les auteurs païens. Donc les mages venaient d'Arabie. Alors, deuxième question, la question de l'étoile des mages. Quelle était l'étoile des mages et comment en connurent-ils la signification? Quoi qu'il en puisse être, les mages, prêtres et rois, avaient vu dans le ciel l'étoile qui marquait la naissance du désiré des nations. Donc ils se souvenaient de la prophétie de Balaam, une étoile sortira de Jacob, etc. Quand ils ont vu cette étoile, ben ils ont reconnu la réalisation de la prophétie. Alors, ils avaient vu dans le ciel l'étoile qui marquait la naissance du désiré des nations. Comment l'avaient-ils reconnue? C'est bien beau, mais l'étoile, il y en a beaucoup. Comment l'ont-ils reconnue? Qui leur avait appris ce qu'elle annonçait? Ben, c'est bien beau, c'est parce qu'on voit une étoile filante, qu'on dit ça y est, il y a un sauveur qui vient. Quoi. Vous comprenez? Bon. Sur ces questions, la tradition est riche de documents. Une étoile se lèvera de Jacob. C'est-à-dire tout à la fois un astre apparaîtra au ciel de la Judée qui annoncera le véritable astre du monde, la lumière éternelle, donc le Christ, descendu sur la terre pour dissiper les ténèbres de 4000 ans dont elle est enveloppée. Cet oracle était resté vivant parmi les peuples de l'Arabie. Devenu populaire chez les autres nations de l'Orient, il avait pénétré jusque dans l'hémisphère occidental. Il y a, dit Chalcidius, philosophe platonicien, donc dans l'Occident, une autre histoire plus respectable et plus sainte. Donc témoignage d'un philosophe païen, là. Vous voyez, ces prophéties, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces prophéties ont été diffusées même en dehors de la vraie religion, même chez les peuples païens. Donc là, un exemple d'un philosophe platonicien. Il dit, il y a une autre histoire plus respectable et plus sainte. Elle dit qu'une certaine étoile s'est levée pour annoncer non des maladies et des morts, mais la descente d'un dieu vénérable, ami de l'homme et du monde. Les païens avaient certains fragments de la révélation par diffusion. Bon. Puis il ajoute que les sages de Chaldée, habiles dans la science des astres, ont cherché le dieu nouvellement né. Et qu'ayant trouvé cette majesté enfantine, ils lui ont offert les présents qui lui conviennent. Donc Chalcidius vivait au commencement du IVe siècle. Bon. Donc c'est les païens qui témoignent de la vraie tradition. En effet, les mages disent à Hérode, nous avons vu son étoile, non pas une étoile quelconque, mais l'étoile qui annonce la naissance du roi des Juifs, son étoile. L'étoile qui a été prédite à nos ancêtres, par un de nos ancêtres divinement inspiré, l'étoile que nous n'avons cessé d'attendre, une longue suite de siècles. Donc, c'est cette étoile annoncée par Balaam. Alors, qu'avait cette étoile pour se faire infailliblement reconnaître ? Un témoignage de saint Augustin, de saint Jean Chrysostome, d'accord avec toute la tradition. L'étoile des mages, disent-ils, ne fut pas une des étoiles créées dès le commencement et qui accomplissent leur révolution d'après la loi du Créateur. Ce fut un astre nouveau qui apparut pour annoncer le miraculeux enfantement de la Vierge. Bon. Saint Augustin contre Faust et saint Jean Chrysostome. Deuxième homélie sur Matthieu, saint Matthieu. Bon. Saint Thomas explique le témoignage des pères et en donne les raisons. Le commentaire de saint Thomas d'Aquin, donc théologien. L'étoile des mages, dit-il, ne fut ni une comète, ni un météore, ni aucun des astres que nous voyons briller au firmament. Ce fut une étoile créée exprès, dans la région du ciel la plus voisine de la Terre, et se mouvant non d'après les lois ordinaires du système planétaire, mais suivant la volonté libre du Créateur. Bon, c'est pour ça que quand on met une grosse étoile juste au-dessus de la crèche, ça correspond à une certaine réalité. Alors ensuite, saint Thomas encore. En effet, cette étoile ne suivait pas la marche ordinaire des autres étoiles. Elle n'apparaissait pas seulement la nuit, mais même en plein midi, donc en plein jour. Ce que ne font ni les étoiles, ni même la lune. Tantôt elle apparaissait, tantôt elle disparaissait. On voit ça dans l'Évangile, hein, au-dessus de Jérusalem. Son mouvement n'était pas continuel, comme celui des autres astres. Mais lorsque les mages devaient marcher, elle marchait. Lorsqu'ils devaient s'arrêter, elle s'arrêtait. Un peu comme la colonne de nuée devant les Hébreux dans le désert avec Moïse. On voit par là combien sont absurdes certains savants qui prétendent que l'étoile des mages fut le résultat de la conjonction de deux astres, prédestinés d'avance à se trouver réunis au moment précis de la naissance du Messie. Est-ce qu'une conjonction stellaire n'est pas soumise aux lois qui dirigent les astres du firmament ? Peut-elle paraître en plein midi ? Peut-elle tour à tour se montrer et se cacher ? Et finalement, peut-elle demeurer immobile sur un point du ciel correspondant à une maison terrestre, puis disparaître sans retour ? Voilà où conduit la prétention de vouloir tout expliquer naturellement afin d'échapper au miracle. Donc la tradition, l'écriture sainte, la tradition, enseigne que cette étoile est miraculeuse. Et dès qu'on veut l'expliquer scientifiquement, on tombe dans l'absurdité scientifique. Parce que si on veut expliquer l'étoile scientifiquement, il faut tenir qu'elle fait partie du système déjà en place. Il faut tenir que les lois habituelles et communes font des choses extraordinaires. Ça ne tient pas. On est dans l'absurdité. Alors, depuis longtemps attendu, l'astre béni avait été figuré par la colonne de feu qui dirigeait la marche des Israélites dans le désert. Mais plus noble était sa mission. Donc, vous voyez, il n'y a pas de difficulté. S'il y a une colonne de feu qui a conduit les Hébreux le jour et la nuit, presque ad nutum. Les Hébreux lui obéissaient. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand elle démarrait, il démarrait. Si le peuple hébreu était conduit par une colonne de nuée, on ne voit pas pourquoi les peuples païens n'auraient pas été conduits par une étoile, ad nutum aussi, suivant le bon plaisir du Créateur. Bon. L'antique colonne indiquait au peuple figuratif la route de la terre promise. L'étoile des mages conduisit le genre humain au berceau de l'enfant Dieu. En effet, il ne faut pas croire, comme quelques-uns l'ont prétendu, que l'étoile demeurait au point du ciel correspondant perpendiculairement à Jérusalem, et qu'elle ne marcha pas devant les mages, qu'elle ne marcha devant les mages qu'à partir de cette ville jusqu'à la sainte maison de Bethléem. Donc voilà, il y a une objection, il y a des gens qui tiennent que les mages auraient vu depuis l'Arabie l'étoile au-dessus de Jérusalem, et qu'ils seraient allés à Jérusalem, et que de là, ils seraient allés à Bethléem. Donc l'étoile n'aurait rien fait du tout, en fait. Alors saint Thomas dit, la parole des mages, nous avons vu son étoile en Orient, ne veut pas dire que les mages, étant en Orient, avaient vu l'étoile fixée sur la terre de Juda. Mais cette phrase, nous avons vu son étoile en Orient, veut dire que l'étoile était en Orient, et que c'est là qu'ils l'avaient vue, et qu'elle avait marché devant eux jusqu'en Judée. Voilà ce que dit saint Thomas. Voici un autre détail également certain, quoique moins connu. L'étoile des mages surpassait en lumière non seulement la colonne du désert, mais les étoiles, la lune et le soleil, tous les globes lumineux qui étincellent à la voûte du ciel. Emblème de celui qui est la lumière par essence, sa lumière éclipsait la lumière de tous les astres. Telle est la disposition d'un témoin parfaitement placé pour connaître ce fait, et dont la parole est au-dessus de tout soupçon. Alors là, c'est saint Ignace d'Antioche. Alors, saint Ignace d'Antioche, c'est qui? C'est un père apostolique, donc un de ses pères de l'Église, qui ont connu les apôtres. Donc, il a été martyrisé en 107, si mes souvenirs sont bons. Rien à voir avec saint Ignace de Loyola. À Rome. Il était mangé par les lions, celui qui a écrit « Que la dent des lions me broie, afin que je sois le froment du Christ, etc. » C'est très beau, ça. Alors, ses parents ont vu l'étoile. Et souvent, on dit « Oh, ben oui, mais c'est un témoignage des pères du second siècle, donc bon, c'est déjà loin des apôtres. » Non, pas du tout. Le second siècle, ce sont des gens qui ont connu les apôtres. Saint Jean est mort en l'an 100. Et puis, des gens dont les parents ont pu être témoins de certaines choses. Donc, c'est pas du tout des... C'est tout à fait des sources sûres, et même les témoignages les plus forts et les plus certains. Alors voilà, l'étoile des mages, dit saint Ignace d'Antioche, dont le père et la mère avaient pu la voir, brillait d'un éclat supérieur à toutes les clartés qu'on n'avait jamais vues. Sa lumière était ineffable, et la nouveauté d'un pareil phénomène jeta dans la stupeur tous ceux qui en furent témoins. Les étoiles, la lune et le soleil ne semblaient plus que des satellites de cet astre admirable dont l'éclat les faisait tous pâlir. C'est pas du tout délirant, quoi. Je connais un monsieur à Charleville, quand on fait des conférences sur Fatima et qu'on parle de la nuit du 25 janvier 1938, donc on dit que c'est une aurore boréale, c'était pas une aurore boréale, aucun des observatoires météorologiques n'a constaté d'aurore boréale ce jour-là, eh bien il y a eu cette nuit mystérieuse et illuminée dont parlait Notre-Dame dans les apparitions. J'ai rencontré des gens qui l'ont vue cette nuit, donc le 25 janvier 1938. Et qui annonçait donc la Seconde Guerre mondiale. Saint Ignace d'Antioche est contemporain de gens qui ont vu l'étoile aussi. Il n'y a pas que les mages qui ont vu l'étoile. Ce n'est pas une hallucination collective des trois mages qui ont un fait mystique que personne n'a vu. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, généralement, l'hallucination collective, c'est une invention des scientifiques de mauvaise foi qui refusent le miracle. Par exemple, quand on veut nier la création, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien expliquer pourquoi il y a des choses sur la Terre, quoi. Pourquoi il y a des créatures. Donc si on est le créateur, ben on invente l'évolutionnisme, l'invention des scientifiques de mauvaise foi. Bon. Quand on veut nier un miracle vu par 70 000 personnes comme à Fatima, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une solution, c'est d'inventer la hallucination collective. Hallucination collective qui n'a jamais été constatée par aucun médecin scientifique honnête. Oui, c'est toujours pareil. Donc, c'est pas... Une hallucination collective des trois rois mages. Alors les seules fois où on constate l'hallucination collective, c'est quand on s'est shooté avec de la drogue. Les mages, ce n'était pas shooté avec du LSD ou de la cocaïne. Il faut être sérieux. Alors, un des plus illustres vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ, saint Léon, donc saint Léon le Grand, il a vécu donc au 5e siècle. C'est ça. Continue en le confirmant le témoignage de saint Ignace. Aux trois rois mages, dit-il, apparut dans une région de l'Orient une étoile plus brillante et plus belle que tous les astres. Elle attira les regards et fixa l'attention de tous ceux qui la virent. On comprit aussitôt que ce n'était pas en vain qu'apparaissait un si étrange phénomène. Avant que les nations chrétiennes eussent perdu avec le sens chrétien le patrimoine de leurs anciennes traditions, la clarté incomparable de l'étoile des mages était demeurée populaire. La poésie l'avait chantée dans des vers immortels, et les multitudes rassemblées dans les temples redisaient ce que l'Église continue de redire à ses enfants, « Salut étoile qui par ta beauté et par ton éclat fit pâlir le disque du soleil. » C'est l'hymne de Prudence, ça doit dater du 8e siècle ou du 9e siècle. Alors. Personne plus que les mages ne fut frappé de l'apparition de l'astre merveilleux. Il l'attendait et en connaissait la signification. Il l'attendait. La tradition rapporte que les mages d'Arabie, gardiens fidèles de l'oracle de Balaam, avaient de temps immémorial fondé un collège de 12 des plus instruits parmi eux, afin de signaler l'apparition de l'étoile prophétique. À la mort, le fils prenait la place du père. Chaque année, après les moissons, il montait sur une haute montagne, appelée montagne de la victoire, peut-être la même du sommet de laquelle Balaam avait prédit et les victoires d'Israël et l'étoile du Messie, vainqueur du monde. Là, il demeurait 3 jours en prière, donc chaque année après les moissons, demandant instantanément à Dieu de leur montrer l'étoile prédite par Balaam, leur aïeul. 3 d'entre eux demeuraient sur la montagne et continuaient la prière. Au temps marqué, ils étaient remplacés par 3 autres, en sorte que leur veille et leur supplication étaient aussi continuelles que leur attente. Bon, ça c'est Saint Jean Chrysostome qui rapporte ça. Serait-il étonnant que les mages n'eussent pas cessé d'être en observation pour attendre l'étoile quand on voit aujourd'hui même les Suisses entretenir pendant l'hiver, sur les sommets glacés des Alpes, 3 hommes chargés de faire des observations barométriques. Donc, vous voyez, on dit, ah oui, mais cette histoire de mages qui regardent sur les sommets, la venue de l'étoile, c'est complètement farfelu. Il dit, non, regardez, même au niveau, dans les choses temporelles, en Suisse, on place 3 hommes sur les montagnes qui font des observations barométriques toute l'année. Pourquoi on n'aurait pas eu 3 mages qui observaient toute l'année la venue de l'astre depuis des années? La raison, c'est pas absurde. Ce fut au mage en observation sur le mont de la victoire, comme au berger de garde dans la tour d'Adair, que pendant la nuit de Noël apparut au premier l'étoile si longtemps attendue et si ardemment désirée, et au second, l'ange rayonnant de lumière annonça la naissance du Sauveur. Bon, saint Thomas dit, comme les Juifs avaient déjà reçu la révélation, ils sont éclairés par des anges, ils ont déjà l'intelligence des choses. Mais comme les rois mages n'ont pas reçu la révélation et que leur... Que les éléments sont plus évocateurs pour eux que la révélation qu'ils n'ont pas reçue, eh bien les peuples païens sont guidés par les éléments, et non pas par des anges. Ils en connaissaient la signification. Bien que l'Écriture ne le dise pas, il est vraisemblable que Balaam donna le signalement de l'étoile prophétique, de manière à la faire reconnaître entre tous les astres du firmament. À cette connaissance naturelle se joignit l'illumination surnaturelle. Donc il y a eu une grâce. Donc, ces mages étaient là, ils connaissaient la prophétie. Donc il y a le texte sacré, une étoile se lèvera en Jacob. Balaam a peut-être donné des éléments par oral, qui sont la tradition, elle sera comme ci, comme ça, comme ça. Et puis au moment où elle est apparue, eh bien il y a une illumination, une grâce, pour leur faire comprendre que c'était celle-là. Les mages, dit saint Léon, éclairés intérieurement par la lumière de la grâce, reconnurent aussitôt l'étoile. Elle fut pour eux ce que la voix de l'ange était pour les bergers, la voix du ciel à laquelle ils obéirent avec transport. Voilà. Ils n'ont pas eu cette voix des anges, mais ils ont eu une illumination intérieure. Bon. Voilà cette histoire de l'étoile. Alors, la signification des présents. Alors, sur la durée du voyage, il dit, en fait, l'Arabie, c'est pas si loin que ça. Le voyage n'a pas été si long que ça. Bon, alors, la signification des présents. Allons-y. Chacun convient que les présents des mages avaient une signification mystérieuse, en rapport avec les qualités de l'enfant de Bethléem, et marquaient sa divinité, sa royauté, son humanité. Vous êtes Dieu et nous vous adorons, voilà l'encens, symbole du sacrifice qui n'est dû qu'à Dieu. Vous êtes roi et nous vous reconnaissons pour tel, voilà l'or, symbole de la richesse et de la puissance, apanage distinctif de la royauté. vous êtes Dieu homme et nous confessons dans votre personne le mystère qui, unissant le fini et l'infini, réconcilie l'homme et Dieu. Voici la myrrhe, aromate destinée à embaumer les corps et qui servira à votre sépulture lorsque vous aurez daigné souffrir la mort pour donner la vie au monde. Rien de plus conforme au génie des peuples orientaux que ce langage et rien de plus éloquent. Tout le monde le comprend. Mais dans les présents des mages, il y a un autre mystère qui ne s'aperçoit pas au premier coup d'œil. Alors ça, c'est assez beau. Ici, il explique des choses intéressantes. Donc vous savez que dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament. Il l'annonce soit par des prophéties, donc des oracles intelligibles, soit par des figures. Donc les figures sont des choses qui en signifient d'autres. Par exemple, le sacrifice d'Abraham avec Isaac. Donc Isaac figure le Christ qui sera immolé sur le bois de la croix. Quand Isaac porte son bois, c'est un événement qui annonce par des choses, par des comportements, le Christ qui portera sa croix. Donc c'est ça. On appelle ça des figures. Des figures. Alors saint Augustin a cette phrase célèbre que je dis de tête. In vetere novo latet, in novo vetus patet. Ça, c'est du saint Augustin. Bon, il dit, dans l'Ancien Testament se cache le Nouveau, et le Nouveau Testament met en lumière l'Ancien. Tout simplement. L'Ancien est ordonné au Nouveau Testament. Il l'annonce en figure et mystérieusement et en prophétie, et le Nouveau Testament réalise l'Ancien Testament. Alors, donc voilà, c'est un petit peu de ça dont il va s'agir. Les mages, avons-nous vu, étaient arabes et descendants d'Abraham par Sétura. Or, l'histoire sainte nous apprend qu'Abraham, en excluant de la possession de la terre promise tous ses enfants, à l'exception d'Isaac, donc c'est Isaac qui a reçu les promesses de la terre promise et de la descendance du Christ, et tous les autres enfants ont été exclus, donc ils sont partis ailleurs. Ne les avait pas pour cela privés d'une partie de ses grands biens. Et ainsi, il donna au fils de Sétura, mère des Arabes, Saba et Epha, c'est les Arabes, de l'or, de l'argent et des étoffes. Puis, confident des futurs mystères, il mit dans leur bagage l'encens, la myrrhe et l'or des rois de Sodome et de Gomorre. Donc vous savez que Sodome et Gomorre avaient, les rois de Sodome et de Gomorre avaient pris, il me semble, en prisonnier Lot, et que Abraham a envoyé donc une armée de 300 et quelques bons hommes pour délivrer Lot, etc. Et il est revenu donc avec tout son butin. Moi, j'espère que je ne me trompe pas. Que je ne fais pas de confusion de personnage. Enfin, bon, il faudrait vérifier. En tout cas, c'est à la suite de ça que Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Melchisédek, il figurait le Christ, il offrait le pain et le vin, etc. Bon, vous connaissez ça. Hein. Alors, donc, c'est tout ça dont il parle. Puis, confident des futurs mystères, il mit dans leur bagage l'encens, la myrrhe et l'or des rois de Sodome et de Gomorre, précieuses dépouilles tombées en sa possession après la défaite de Non, je pense que j'ai mélangé l'histoire de Lot et l'histoire de Sodome et Gomorre, j'ai l'impression. Il faudrait que j'aurais dû reprendre ma Bible. Pardon ? Ouais, bon, enfin bref, peu importe. En tout cas, Abraham a remporté des dépouilles, une victoire. Et dans ces dépouilles, ben, il y avait l'encens, la myrrhe et l'or. Du moins, il y avait de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Il mit dans leur bagage l'encens, la myrrhe et l'or. Donc alors on reprend. Ainsi, il donna au fils de Sétura, mère des Arabes, Saba et Epha, de l'or, de l'argent et des étoffes. Puis, confident des futurs mystères, il mit dans leur bagage l'encens, la myrrhe et l'or des rois de Sodome et de Gomorre, précieuse dépouille tombée en sa possession après la défaite de Kedorlaomer et le pillage de son camp. Dans la personne de Melchisédek, Abraham les avait consacrés au Seigneur. Par sa dîme. Cette offrande, donc d'Abraham et de... d'Abraham au fils de Sétura, donc Saba et Epha. Cette offrande était la figure d'une autre offrande, comme Melchisédek lui-même était la figure du Messie. Le père des croyants savait qu'un jour ses descendants réaliseraient la figure, en offrant ces mêmes présents à celui dont Melchisédek était le représentant. Donc, voilà maintenant les descendants des Arabes, les rois mages, vont offrir leur présent au Christ, qui était figuré par Melchisédek. Donc c'est la réalité qui fait place à la figure maintenant. On devine sans peine qu'Abraham les avait instruits du mystère. Joint à la connaissance traditionnelle en Arabie de l'oracle de Balaam, cette communication prophétique élucide deux grands faits d'une nature identique. Melchisédek qui figure le Christ. Bon. Il y a l'offrande au fils de Sétura, Saba et Epha, qui sont les ancêtres des rois mages. Et puis là maintenant, il y a une autre, la reine de Saba, qui offre à Salomon, qui figure aussi le Christ. Donc il y a toute une suite de figures dans le Testament qui annonce l'offrande des mages au Christ, avec ses présents. Alors, qui était la reine de Saba? Donc celle qui est allée offrir des présents à Salomon, qui figurait le Christ. D'où lui venait l'idée d'apporter à un prince étranger ce qu'elle a de plus précieux? Comment s'explique le choix de ses présents, les propres présents de la reine de Saba? Cette reine descendait d'Abraham par Sétura. Voyons, on est toujours dans Sétura. Petite fille de Saba, donc je vous rappelle que Saba était fils de Sétura, Sétura une des épouses d'Abraham. La reine de Saba est une descendante de Sétura. Petite fille, ça peut être arrière-petite fille, c'est un langage. Elle occupait le trône de ses pères. Son royaume était le royaume même de Saba, situé dans l'Arabie. Présent des mages. Vous voyez, cette offrande de la reine de Saba, descendante des Arabes, à Salomon, est une figure des mages qui viennent de Saba aussi et qui offre à Jésus-Christ ses présents. C'est une figure dans l'Ancien Testament. Connaissant les mystères confiés à sa race, elle vint, au bruit de la gloire de Salomon, accomplir en figure l'engagement contracté par ses ancêtres. Entrée à Jérusalem avec une grande pompe, elle offrit à Salomon de l'or et des aromates, c'est-à-dire les mêmes choses que les mages, ses descendants, qui devaient offrir un jour leur présent au vrai Salomon. Donc les aromates, ben, c'est l'encens et la myrrhe, tout simplement, c'est ce qu'il dit. Le second fait est la visite des mages à l'enfant de Bethléem, placé entre les mages et Abraham. La reine de Saba est le brillant anneau de la chaîne traditionnelle. Vous voyez, il y a une chaîne traditionnelle entre Abraham et notre Seigneur et les mages. Il y a au milieu la reine de Saba avec l'offrande à Salomon. C'est toute une série de figures jusqu'à la réalisation des figures qui est l'offrande des mages au Christ. Sa conduite montre avec éclat que la prophétie de Balaam est le fidéi commis laissé par le père des croyants au fils de Sétura, ne s'était jamais perdu dans la postérité de Saba et d'Epha. Que l'Arabie avait l'œil fixé sur la Judée et qu'elle attendait le moment solennel d'apporter au glorieux rejeton de Jacob l'or, l'encens et la myrrhe, mystérieux présent dont elle était tenue de lui faire hommage. Donc l'auteur ici explique que cette offrande de la reine de Saba à Salomon, c'est la preuve que les anciens vivaient de cette tradition de Balaam, puisqu'il l'a réalisée en figure au moins à des époques précises de l'histoire, en attendant la venue du Christ. Ainsi, tout s'explique. On sait pourquoi les mages vinrent de l'Arabie, pourquoi à des époques si différentes, la reine de Saba et les mages apportèrent à notre Seigneur, ou à son représentant, donc Salomon, la figure, des présents de même nature. La différence consiste en ce que la reine de Saba les offre à Salomon, figure du Messie, tandis que les mages ont le bonheur de les offrir au Messie lui-même. Pour comprendre le mystère dans toute son étendue, il faut remarquer que les mages et leurs présents étaient les prémices du peuple gentil et de tous ses biens meubles et immeubles, comme les bergers étaient eux-mêmes les prémices du peuple juif. C'était sur la plus grande échelle l'accomplissement de la loi figurative des prémices. Ainsi, dans la personne des bergers et des mages, le genre humain tout entier, avec toutes ses richesses, se trouve en adoration devant le nouveau roi, à qui il consacre ce qu'il est et ce qu'il a. C'était justice. Par droit de naissance et par droit de conquête, l'enfant de Bethléem était le roi de tous et il venait régner sur tous afin de les sauver tous. Bon. C'est un petit peu compliqué. Il aurait fallu que je reprenne le texte de la Bible, en fait, pour que ce soit plus clair. Mais donc on voit bien, c'est que cette offrande des mages au Christ, en réalité, a été figurée dans l'Ancien Testament par les différentes offrandes d'Abraham, les offrandes de la reine de Saba à Salomon. Donc ça montre bien qu'il y avait une tradition et que ces offrandes étaient faites même par les descendants de Balaam, donc en Arabie, par des Arabes. Alors sur la signification des présents, je vous parle un peu de Saint-Louis de Montfort, là, rapidement. Au numéro 56, dans le traité de la vraie dévotion. Donc là, c'est plutôt une signification mystique et spirituelle. Saint-Louis de Montfort parle des apôtres, notre Seigneur, de Jésus et de Marie. Et il dit, ce seront des enfants de Lévi, c'est-à-dire des prêtres, bien purifiés par le feu de grande tribulation et bien collés à Dieu, qui porteront l'or de l'amour dans leur cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps, et qui seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ, aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains. Vous voyez, il fait une application là. Donc l'or de l'amour dans le cœur, l'encens de l'oraison, donc de la prière dans l'esprit, et la myrrhe de la mortification dans le corps. Bon, pour approfondir un peu cet aspect spirituel, on pourrait reprendre dans Saint-Louis de Montfort, pour la myrrhe de la mortification dans le corps, la lettre aux amis de la croix. Donc c'est son enseignement sur la mortification du corps. Le livre sur le rosaire, le secret admirable du rosaire pour se convertir et se sauver, il dit que c'est par le rosaire qu'on arrive à l'oraison continuelle. Et donc, voyez, l'oraison, l'encens de l'oraison dans l'esprit. Bon, je vais faire toute une conférence sur le rosaire. Et puis l'amour, l'or de l'amour dans leur cœur, on pourrait prendre l'amour de la sagesse éternelle, ce livre sur Jésus-Christ et sur l'amour du Christ. Donc on aurait là un petit peu donc doctrine spirituelle du bienheureux de Montfort à partir de cette figure des rois mages. Si vous voulez. Alors, donc il a un cantique sur les rois, je vais vous le lire si vous voulez. Ô grand roi, voulez-vous, bel astre. Alors c'est un cantique avec des strophes, donc une certaine rime, c'est un peu un poème aussi. Donc je vais vous le lire. Ô grand roi, voulez-vous un bel astre des cieux, qu'il est nouveau, qu'il est mystérieux. Il avertit qu'un sauveur vient de naître. Allons, allons, adorer ce grand maître. 2. Marchons et quittons tous sans tarder d'un moment, sans raisonner sur cet événement. Sentez-vous pas une douceur nouvelle? C'est là la voix de Dieu qui nous appelle. C'est très beau parce qu'on retrouve toute la doctrine de Mgr Gaume, quoi. Cette illumination intérieure, enfin c'est très surnaturel, quoi. Suivons en sûreté ce céleste flambeau. À sa clarté, cherchons l'enfant nouveau. Il vient de loin pour montrer qu'il nous aime. Allons bien loin pour lui rendre le même. L'astre s'arrête ici. Quoi, dans ce pauvre lieu? Serait-ce ici qu'est né notre vrai Dieu? Cela n'est pas croyable. Quoi qu'il en soit, entrons dans cette étable. En vérité, voici celui que nous cherchons. C'est notre Dieu. Descendons, arrêtons. Prosternons-nous aux pieds de son enfance, dans le respect, l'amour et le silence. Jésus, vous avez pris au roi bien des peines pour moi. Je ne puis trop admirer votre foi. Relevez-vous, approchez-vous de grâce. Venez à moi pour que je vous embrasse. Les rois. Bonjour, ô cher enfant, ô puissant roi des rois. Nous venons pour nous soumettre à vos lois. Nous adorons votre toute-puissance au travers de cette vile apparence. Daignez prendre cet or comme un roi tout-puissant. Comme vrai Dieu, recevez cet encens. Comme mortel, recevez cette myrrhe. Nos sceptres sont soumis à votre empire. Jésus, j'accepte ces présents, je reçois ces honneurs. Je veux aussi vous combler de faveurs. Pour vous seront mes plus grandes largesses. Vous goûterez mes plus tendres caresses. Les rois. Amis, ressentez-vous l'ineffable douceur qu'on goûte ici près de ce doux sauveur? Nos palais n'ont point de plaisir semblable à celui qu'on ressent dans cette étable. Adorons, adorons ce débonnaire agneau. Tombons, tombons aux pieds de son berceau. Il est enfant, mais il est adorable. Il est abject, mais il est tout aimable. Mère du bel amour, qu'on vous loue en tout lieu de nous avoir donné cet enfant Dieu. D'avoir donné le jour à la lumière, l'être au vrai Dieu, la vie à notre Père. Votre exemple, Jésus, nous montre évidemment que la grandeur est dans l'abaissement, que le bonheur consiste en la souffrance, que le vrai bien se trouve dans l'indigence. Vous enlevez nos cœurs par votre humilité, vous les gagnez par votre pauvreté, ayez sur eux une victoire entière, bénissez-les par votre sainte mère. Puisque nous ne pouvons rester ici longtemps pour contempler vos attraits si charmants, avant de partir, bénissez-nous de grâce, et pour jamais en nos cœurs prenez place. Jésus, ami, allez en paix sous ma protection, prêchez partout la gloire de mon nom, croyez en moi, portez chacun à croire, et vous serez de grands rois dans ma gloire. C'est assez beau. Alors, le scoop de l'année, c'est que les reliques des rois mages sont passées en Franche-Comté. Alors, on va voir ça deux minutes. Page 62. Bon, je passe, ils ont été à Constantinople. Ils sont allés à Milan. Alors, on repart de Milan, je ne raconte pas tout. Les trois rois furent honorés à Milan pendant environ 600 ans, c'est-à-dire jusqu'au sac de cette ville par l'empereur Frédéric Barberousse en l'an 1164. Avant le désastre, de courageux chrétiens sauvèrent le précieux dépôt et le remirent entre les mains de Reynold, archevêque de Cologne et chancelier du Saint-Empire, qui avait suivi l'empereur en Italie. Comme on avait transporté la lueur de milliers de flambeaux et au milieu d'un immense concours, de Ravenne à Auxerre, le corps de Saint-Germain, ainsi furent transportés solennellement de Milan à Cologne les corps des trois rois mages. Au lieu de se diriger sur l'Allemagne par le Tyrol ou par la Suisse orientale, le cortège traversa les Alpes et prit sa route par l'est de la France pour gagner Strasbourg et le Rhin. À la fin d'une journée, il s'arrêta aux portes d'une abbaye de Franche-Comté, située non loin de Baume-les-Dames, sur les bords de la belle vallée qui s'étend de cette ville à Montbéliard. Le souvenir de cette station mémorable s'est perpétué jusqu'à nos jours dans un double fait dont voici l'histoire. La famille de Gramont de Franche-Comté porte dans ses armes trois têtes couronnées. Ces trois têtes sont des têtes, non des reines, mais des rois. Quelle est la raison de ces armoiries uniques dans leur espèce ? La famille de Gramont-Grange était protectrice de l'abbaye qui eut l'honneur de donner l'hospitalité aux trois rois mages. Les reliques, on s'entend. Ce fut le seigneur de Gramont avec ses gens qui, pendant la nuit, monta la garde auprès du précieux dépôt. Afin de perpétuer la mémoire de cette insigne faveur, la noble famille prit les armoiries dont nous venons de parler. L'abbaye elle-même ne fut pas moins jalouse d'immortaliser le bienheureux passage. Elle changea son nom d'abbaye en lieu croissant, elle s'appelait, en celui d'abbaye des trois rois qu'elle porte encore. Hélas, il n'est plus porté que par des ruines. Je ne sais pas. Bon, alors voilà, ensuite, donc, petit passage en Franche-Comté des rois mages. Les reliques sont à Cologne. Alors ensuite, je vous propose de terminer là-dessus. Comment les siècles chrétiens ont-ils honoré les rois ? Alors, trois choses. Première chose, comment les rois honoraient les rois, les rois mages. Une de nos solennités chrétiennes qui a le privilège d'une popularité exceptionnelle, c'était la fête des rois. Nous ne parlerons pas des innocents plaisirs qu'elle apporte dans les familles.
La galette des rois,
les cadeaux, etc. Strictement, on pourrait plutôt les cadeaux, ça ne devrait pas être à Noël, ça devrait être à l'Épiphanie. Hein. D'ailleurs, la fête la plus ancienne de la naissance du Christ, c'est l'Épiphanie en Orient. Noël est plus récent, c'est très ancien, hein, mais l'Épiphanie est plus ancienne comme fête que Noël. Et en Orient, c'est l'Épiphanie qui est la Noël d'Orient. Bon. Alors, mais il manquerait quelque chose à notre modeste travail si nous passions sous silence la manière dont l'Église, dans les âges de foi, prenait soin de perpétuer le souvenir de l'immense bienfait qui s'y attache. Fils aîné de l'Église, parmi les rois chrétiens, comme les mages avaient été parmi les rois gentils, les fils aînés de la grâce, nos anciens rois de France étaient dans l'usage d'assister avec tout le peuple à la messe solennelle de l'Épiphanie. Au moment de l'offertoire, on les voyait s'avancer vers l'autel dans toute la pompe de la majesté royale, la couronne sur la tête, ayant entre les mains des vases précieux qui contenaient de l'or, de l'encens et de la myrrhe, dont ils faisaient hommage au roi des rois, représenté par son ministre, donc l'évêque, l'archevêque de Paris, ainsi s'affirmait et s'affermissait la royauté chrétienne. Bon. Maintenant, autre cérémonie à Reims. À Reims, après le chant de tierce, alors tierce, c'est une des heures du bréviaire qu'on chante avant la messe, normalement, dans les abbayes. Donc c'est l'heure de bréviaire qu'on chante vers 9h du matin, avant la messe de communauté. Donc dans les abbayes bénédictines, on chante tierce avant la messe conventuelle. À Reims, après le chant de tierce, ou dans les cathédrales, les chanoines, c'est le clergé de l'évêque qui prie la liturgie pour tout le diocèse. Donc les chanoines sont tenus de chanter l'office au chœur, tout l'office au chœur. C'est un peu, on dirait, les moines de l'évêque, si vous voulez. Ce sont un peu les moines de l'évêque qui chantent l'office tout entier au chœur et qui chantent la messe conventuelle et qui, à l'occasion de cet office et de cette messe, prient pour tout le diocèse, en fait. Et ils sont tenus de faire ça, c'est une obligation grave. C'est leur rôle, quoi, c'est leur mission. C'est leur rôle dans l'Église. Bon, alors là, dans la cathédrale, on chantait tiers, ces chanoines chantaient tiers, admettons. Alors que le flot du peuple remplissait la vaste basilique, trois dignitaires du chapitre, chanoines, enveloppés comme de manteaux royaux, de ces magnifiques chapes d'autrefois, où la pourpre, l'or et l'azur, habilement mis en œuvre, formaient les dessins les plus riches et les plus variés, arrivaient par trois côtés différents en face du maître-autel. Bon, imaginez, le maître-autel, qui avait un de chaque côté qui arrivait comme ça, habillé avec des habits royaux, enfin des chapes, etc. Hein. Précédés de leurs officiels, ils étaient suivis de leurs serviteurs portant les royales offrandes, dont l'or, l'encens et la myrrhe. Le premier roi venu du côté de l'Orient, s'arrêtait debout devant le maître-autel. Puis, élevant un sceptre surmonté d'une étoile étincelante, il chantait, donc une antienne, « Stella fulgore nimio rutilat ». Une étoile brille d'un éclat incomparable. Donc, vous voir, c'est le mystère mis en liturgie, quoi. C'est très, très beau. Alors, il chante, il arrive avec son offrande, avec une, il tenait une étoile brillante. Une étoile brille d'un éclat incomparable. Il chantait ça en grégorien, bon, etc. Le second roi venu du côté du midi, donc du sud, donc normalement du croisillon sud, se plaçait à la droite du premier. Évidemment, s'il est comme ça. Bon. Et il répondait en chantant, donc il répond, « Que regem regum natum denunciat ». Il continue, si vous voulez, le chant. Elle annonce la naissance du roi des rois. Donc le premier chante, une étoile brille d'un éclat incomparable, l'autre arrive, et il chantait, elle annonce la naissance du roi des rois. Oui. Le troisième venu du côté de l'Occident. Alors donc en fait, il y en a un qui devait venir du côté du cœur, un du sud, et puis un depuis l'entrée. De l'Occident. Il continuait, il se plaçait à la gauche du premier et chantait « Quem venturum olim prophete signaverunt » dont les anciens prophètes ont annoncé la venue. Donc imaginez le répondant des trois mages, c'était majestueux. Et alors les trois rois mages s'embrassaient, chantent donc et cherchons-le pour lui offrir les présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous voyez ? Le chœur entonnait aussitôt l'antienne. Alors voilà le peuple, enfin le chœur, la scola, Magi Veniun, Veniunt, les mages viennent, et tout le clergé quittant les stalles se formait en procession dans le chœur, donc commençait une procession. Près de la grille de la grande nef s'élevait un magnifique autel surmonté d'une statue de la Sainte Vierge, devant laquelle était suspendue une couronne étoilée, resplendissante de lumière, tandis que l'autel lui-même où reposait l'enfant Jésus était tout enveloppé de riches draperies. Imaginez cette réjouissance liturgique du peuple, hein. En tête de la procession, les rois mages s'avançaient vers l'autel, et à la vue de la brillante étoile, ils exprimaient leur joie en chantant. Ils se réjouirent d'une grande joie dans le texte de l'Évangile, c'est comme ça. En stella in oriente previsa, iterum nos precit lucida. Donc, nouvelle antienne des trois rois mages qui chantaient. Voilà l'étoile, imaginez les trois rois mages, voilà l'étoile que nous avions vue en Orient, qui reparaît dans tout son éclat pour diriger notre marche. Donc, c'est après la disparition de Jérusalem. À ce chant d'allégresse, deux dignitaires de l'Église répondaient en chantant. Maintenant, c'est des dignitaires de l'Église qui chantent en voyant les mages. Qui sunt i, qui, etc. Quels sont ces hommes qui, sous la conduite d'une étoile, viennent ici annonçant des choses inouïes ? Ouais, c'est toute une mise en scène, en fait, avec des personnages qui se répondent, des chants liturgiques. Les mages reprenaient toujours en chantant, donc les trois mages recommencent à chanter. Nos sumus, quod chernitis, etc. Nous sommes, nous que vous voyez, les rois de Tarsis, des Arabes et de Saba, qui apportons des présents au Christ roi, au Seigneur nouvellement né, et avertis par son étoile, nous venons l'adorer. Alors deux diacres en dalmatique ouvraient les draperies qui enveloppaient l'autel et chantaient « Voici l'enfant que vous cherchez, hâtez-vous de l'adorer, car il est le rédempteur du monde. » mon micro. Les trois rois ensemble se prosterner, le front contre la terre, et saluer l'enfant Dieu en chantant. Salve princeps seculorum, salut roi des siècles. Tous les rois demeurant agenouillés, le premier recevait des mains de son serviteur le vase qui contenait l'or et disait, donc il y avait toute la suite, alors l'encens arrivait de main en main dans les serviteurs jusqu'à dans les mains du roi. Et rex suscipérum, roi recevait l'or, il le déposait au pied de l'enfant. De la main de son serviteur, le second roi recevait le vase d'encens et disait, tolletus tu vere deus. Recevez l'encens, vous qui êtes vraiment Dieu, et il le déposait au pied de l'enfant. Le troisième roi, ayant reçu le vase de myrrhe de ses serviteurs, disait « Homo vere accipe miram ». Vous qui êtes vraiment homme, recevez la myrrhe, et il en déposait le vase au pied de l'enfant. Les mages ayant fait leur offrande, le clergé et le peuple venaient présenter la leur à l'enfant Dieu, en reconnaissance du don qu'il faisait de lui-même. Cependant, les mages demeuraient à genoux en prière et semblaient appesantis par le sommeil. Tout à coup, un ange au gracieux visage et au gentil costume chantait du haut du jubé. Donc le jubé, c'est cette espèce de tribune qu'il y avait normalement au milieu de l'église, à la croisée du transept, où se mettait la scola. Alors en France, il paraît qu'il ne reste que trois ou quatre vrais jubés. Un vrai jubé, c'est celui qui ne cache pas le maître-autel quand on est au fond de l'église. Bon. Alors il y en a un à Flavigny, c'est un de ces trois ou quatre jubés qui est encore à Flavigny. Alors dans le jubé, il y avait quelqu'un habillé en ange. Donc, qui chantait « Impleta sunt omnia », donc « Tout ce qui a été annoncé par les prophètes est accompli, retournez dans votre pays par un autre chemin, de peur que faisant connaître le grand roi, malheur ne vous arrive. » Sur cet avis, les mages se dirigeaient vers la partie septentrionale de l'église et rendaient au cœur par le... Alors, ils partaient, donc septentrional, c'est le nord, ils partaient par le côté où ils n'étaient pas venus, le croisillon nord. Est rentrée au cœur par le côté gauche. Quant à la procession, elle suivait pour s'y rendre l'itinéraire accoutumé. Pendant la marche, un immense volume de voix d'hommes, de femmes et d'enfants faisait tressaillir les verrières de la basilique du chant de cette antienne qui, résumant tout le mystère, en gravait profondément le souvenir dans les cœurs. Alors ils chantaient « Tria sunt munera preciosa, quod tulerunt magi ». Alors tout le peuple chantait « Trois sont les présents précieux et pleins de divins mystères que les mages ont offerts au nouveau roi ». L'encens parce qu'il est Dieu, l'or parce qu'il est roi, la myrrhe parce qu'il est homme. Vraiment oui, les présents des mages sont pleins de mystères, et ces mystères sont tout ensemble la manifestation de la charité de Dieu et la révélation des devoirs de l'homme. Alors là, très bon, je pense que ceux qui ont fait la réforme liturgique pourraient lire un peu ces choses-là, et puis se poser les questions qui vont se poser maintenant, que Mgr Gomme posait de façon prophétique. Pourquoi les drames qui les exprimaient avec une si merveilleuse éloquence n'existent-ils plus? Pourquoi les fêtes elles-mêmes, qui les redisent encore à leur manière, sont-elles incomprises ou dédaignées du grand nombre? Que ces solennités du bon vieux temps doivent paraître regrettables à tout homme d'intelligence et de cœur. Les rois modernes ont-ils gagné quelque chose à répudier les exemples de leurs anciens prédécesseurs? En cessant de se déclarer par des actes religieux et solennels les vassaux du roi des rois, le reflet de la majesté divine qui commandait le respect s'est effacé de leur front. La raison du pouvoir et du devoir s'est obscurcie. Dès lors, les trônes sont-ils devenus plus solides, les dynasties plus durables, les révolutions moins fréquentes et moins profondes. Alors cette phrase du cardinal Pi à Napoléon III, vous connaissez l'histoire, donc Napoléon III qui demandait donc à cardinal Pi... Monseigneur, est-ce que vous êtes éminence, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est maintenant qu'il faut rétablir le règne du Christ-Croix? Vous ne pensez pas qu'il y aura des réactions, tout ça? Alors, cardinal Pi, écoutez, moi je ne suis pas politicien, hein, vous êtes politicien, c'est votre métier. Alors, j'enjolive un peu, mais chacun son métier, les brebis seront bien gardées. Je ne suis pas politicien, et moi je suis évêque catholique. En tant qu'évêque catholique, je vous dis une chose, si le temps n'est pas venu pour le Christ de régner, le temps n'est pas venu pour les régimes politiques de durer. Donc, le peuple à son tour qu'a-t-il gagné à la suppression de ces fêtes qui firent si longtemps le bonheur de ses pères? Comme il faut de l'air et du pain, il faut des spectacles et des fêtes. L'église, sa mère, lui en avait trouvé qui satisfaisait pleinement ses sens et son cœur et qui ne lui coûtait rien. Pourquoi lui avoir enlevé ces spectacles si instructifs, si nobles et si doux? Pourquoi surtout les avoir remplacés par des spectacles corrupteurs où ce malheureux peuple absorbe par tous les pores des doctrines qui le dégradent et des poisons qui le tuent. Prenons-y garde, si on ne lui rend pas, sous une forme ou sous une autre, ce qu'on lui a enlevé, sa foi et les joies de sa foi, il pourrait bien un jour se produire une de ces réactions vengeresses dont l'histoire n'offre que trop d'exemples et qu'il faut éviter à tout prix. Évidemment, il joue maintenant au nouveau roi mage, mais alors il retombe dans les excès dans lesquels vivaient quand même les mages, la superstition, etc. au départ. Hein. Faut pas se tromper. Quoi. Alors, troisième chose, ça permettra d'enchaîner avec dignité sur la suite des événements. Afin de ne rien oublier, disons un mot du gâteau des rois. Dans tout le monde chrétien, un festin rassemblait les familles en souvenir de la fête que firent au pauvre Jésus les rois venus de l'Orient pour lui offrir les présents et l'adorer. Le caractère spécial de cette joie autour d'une table où l'on mangeait, où l'on buvait. C'était l'exaltation d'un petit salut et roi. Aussi n'était-ce pas ordinairement le maître de maison que la fève venait trouver et le sort apportait souvent la fève à l'un des moindres convives. Alors après, Jean d'Auronville rapporte ainsi la manière dont Louis XIII, du nom duc de Bourbon, faisait son roi. Alors c'est un ancien François. Vint le jour des rois où le duc de Bourbon fit grande fête et chère lie, et fit son roi d'un enfant en âge de 8 ans, le plus pauvre que l'on trouva en toute la ville. Le faisant vêtir en habit royal, en lui baillant tous ses officiers pour le gouverner, et faisant bonne chère à celui roi pour révérence de Dieu. Et le lendemain dînait ce roi à la table d'honneur, après venait son maître d'hôtel, qui faisait la quête pour le pauvre roi auquel le duc Louis de Bourbon donnait communément 40 livres pour le tenir à l'école de tous les chevaliers de la cour, chacun un franc, et les écuyers chacun un demi-franc. Si montait la somme aucune fois près de 100 francs, que l'on baillait au père ou à la mère pour les enfants, qui étaient rois à leur tour, être enseignés à l'école sans autre œuvre, dont main dit ceux en vivaient en grand honneur, et cette belle coutume tint le vaillant duc Louis de Bourbon tant comme il vécut. Telle était la vraie récréation de l'Épiphanie, et de là l'usage presque, dans presque toute la France de réserver la part Dieu, c'est-à-dire la part du pauvre, au gâteau des rois. Et quelle belle et bonne joie de porter la part Dieu dans la neige, dans une chaumière. Il y avait aussi la part de l'absence soigneusement serrée au buffet, et qu'un enfant venait recevoir. Les enfants se croient autorisés ce jour-là, en divers pays, à quêter des étrennes en portant une étoile de feu. Conclusion, toutes ces belles considérations. La fête de roi est celle qui élève les petits pour les rendre rois. Elle a été inventée par l'enfant Jésus, et c'est une invention dont il a donné le brevet et le monopole à la seule Église. Or, l'Église, point d'amour pour les petits. Allez, on va dire l'Angélus.